écoutez Radio Grand Ciel et voici l'émission Capitale, proposée
par Elisabeth Couget
et Christine Afota. Nous partons aujourd'hui à Londres, l'une des grandes capitales européennes.
Et Londres compte même depuis des siècles parmi les plus importantes capitales du monde. Elle abrite le siège du gouvernement à Westminster, la résidence royale de Buckingham et les plus grands musées.
Et c'est une ville très très ancienne dont l'histoire a commencé il y a 2000 ans.
Oui, et c'est une ville qui n'a cessé de se transformer au cours des siècles. En survolant son histoire, Londres est successivement une garnison romaine fortifiée,
une place forte au Moyen-Âge,
une grande ville médiévale,
phénix baroque qui renaît de ses cendres après le grand incendie de 1666,
une élégante ville géorgienne sous George III,
la capitale de l'Empire sous Victoria,
le symbole du courage et de la résistance face aux nazis,
et le Swinging London.
Swinging.
Swinging, j'arrive pas à le dire. Swinging London et ses groupes de rock'n'roll des années 60.
Et aujourd'hui, une fourmilière cosmopolite. Sait-on que Londres est la troisième ville française au monde après Paris et Lyon?
Ah oui, absolument, j'ai entendu ça il y a pas longtemps. Et chaque époque a laissé sa trace. Londres a donc été fondée par des Romains, n'est-ce pas?
En 43 après Jésus-Christ. Et Londres s'appelle alors Londinium. Les Romains construisent un pont en bois sur la Tamise, près de aujourd'hui London Bridge. Un siècle plus tard, ils construisent un mur de défense autour de la ville, dont il reste des fragments, qu'évoque par exemple la rue London Wall. Londinium était, d'après les fouilles, une ville importante avec temples, amphithéâtres, forums, palais, bains publics. Et après la conversion de Constantin en 312, le pays va devenir chrétien.
Alors le pouvoir est alors aux mains des Saxons.
Oui, mais le pouvoir saxon s'affaiblit peu à peu sous les attaques des Vikings. En 1016, le chef danois Knud devient roi d'Angleterre. Retour des Saxons en 1042 avec Édouard le Confesseur qui fonde l'abbaye et le palais de Westminster.
Ah oui, cet Édouard était important, n'est-ce pas?
Très.
Alors et voilà, 1066, la bataille de Hastings, une des grandes dates de l'histoire anglaise.
La bataille de Hastings voit la victoire de Guillaume, duc de Normandie, dit Guillaume le Conquérant. Il est couronné roi d'Angleterre à l'abbaye de Westminster le 25 décembre 1066. La domination normande devient alors absolue. Guillaume contrôle Londres, la ville la plus riche et la plus grande du royaume.
Et c'est ce qu'évoque la Normandie, n'est-ce pas?
Oui, en Normandie.
Et la tapisserie de Bayeux, brodée par la reine Mathilde, épouse de Guillaume le Conquérant.
Exactement. Puis, le XIIe siècle voit l'avènement de la puissante dynastie des Plantagenets, avec au départ Henri II, de 1154 à 1485. Cette dynastie va régner pendant plus de deux siècles.
C'était bien l'épouse de Aliénor d'Aquitaine.
Exactement.
Ah, d'accord, ça rapproche.
Oui. Londres est alors au cœur d'une lutte de pouvoir entre l'Église et le roi. Rappelons le meurtre de Thomas Becket en 1170 dans sa cathédrale de Canterbury, mais aussi une lutte de pouvoir entre le roi et les riches marchands de la City, qui est le quartier le plus ancien de Londres. Richard Ier, d'ailleurs, dit cœur de Lyon, qui a besoin d'argent pour ses croisades, accorde à la City le statut de commune autonome en échange d'énormes taxes.
Alors Richard Cœur de Lyon, qui était donc le fils d'Aliénor d'Aquitaine. Alors en 1215, le roi Jean Santerre, son frère donc, signe la Magna Carta, c'est-à-dire la Grande Charte.
Qui est le fondement du droit constitutionnel anglais, qui réduit les droits du souverain et qui définit les libertés et les droits individuels, ceci presque six siècles avant la Révolution française et les droits de l'homme.
Ben dis donc.
Ah, et c'est à ce moment-là, au XIIIe siècle, le commerce est prospère et seigneurs et évêques se font bâtir des demeures grandioses. Mais une période très sombre va frapper Londres. À partir de 1348, c'est le début de la peste noire qui emporte les deux tiers de la population de la ville. Émeutes et violences se succèdent. L'archevêque de Canterbury, un autre, est décapité à la tour de Londres.
Décidément. Alors Londres retrouve paix et stabilité bien sûr à un moment donné avec la dynastie des Tudors entre 1485 et 1603.
Oui, et prospérité aussi, avec un commerce en pleine expansion et la découverte de l'Amérique. Avec tout de même une crise violente quand Henri VIII décide de rompre avec l'Église.
et qui refuse parce que l'Église refuse d'annuler son mariage avec Catherine d'Aragon pour pouvoir épouser la jeune et belle Anne Boleyn.
Et Henri VIII fonde du coup l'Église anglicane, dont le roi est le chef. Ces souverains violents n'hésitent pas à recourir au massacre. Décapitations, on peut peut-être évoquer aussi ici Marie la Sanglante, Bloody Mary, dont le nom a d'ailleurs donné naissance à un cocktail à base de jus de tomate. Oui. Enfin, avec l'arrivée au trône d'Élisabeth I, fille d'Henri VIII et de Anne Boleyn, qui par ailleurs fait quand même elle-même décapiter sa rivale catholique Marie Stuart, avec Élisabeth I s'ouvre une longue période de développement extraordinaire. Le règne d'Élisabeth I dure 45 ans. Et c'est l'époque de Shakespeare, un sommet de la littérature. Londres se développe et devient la principale place commerciale du monde.
Alors après le règne d'Élisabeth Ier se situe l'épisode du
Guy Fawkes.
Guy Fawkes.
Guy Fawkes tente de faire sauter le Parlement le 5 novembre 1605, mais le complot est déjoué. Et depuis chaque 5 novembre, Londres retentit de pétards et de feux d'artifice en souvenir de Guy Fawkes.
Alors Londres va connaître aussi pendant un moment un gouvernement républicain.
Et oui, avec Olivier Cromwell, qui a assassiné le roi Charles Ier. Plutôt qu'un gouvernement, disons plutôt une dictature républicaine. Parce que Cromwell, c'est un homme très austère, il interdit le théâtre, la danse, Noël.
D'accord.
Après les 11 ans de République de Cromwell, le Parlement, n'en pouvant plus, décida que finalement la monarchie avait du bon. Et cela continue jusqu'à aujourd'hui.
Ah bah c'est bien. Deux années très noires ont marqué la ville de Londres avec de terribles événements.
En 1665 d'abord, avec la deuxième grande épidémie de peste à Londres qui tue 100 000 habitants. C'est raconté d'ailleurs par Daniel Defoe, l'auteur de Robinson Crusoe, qui écrit aussi le journal de l'année de la peste. Et l'année suivante, en 1666, c'est cette fois-ci un grand incendie qui va durer 4 jours et qui ravage Londres, détruisant 80% de la ville. Incroyable! On ne déplore que 12 victimes, mais le Londres médiéval de Shakespeare n'existe plus. 89 églises sont réduites en cendres, plus de 13 000 maisons. Et cela contraint des dizaines de milliers de sans-abri à l'exode, vers la campagne et vers le Nouveau Monde, vers l'Amérique.
Oui. Et la ville est reconstruite, bien sûr, et elle est restaurée.
Et avec le roi George III, 60 ans de règne, 1760-1820, notons quand même la longévité de certains règnes en Angleterre.
Absolument.
Et commence à ce moment-là donc une période faste de très grande créativité. Le compositeur attitré de la cour, c'est Handel. Les arts, les industries fleurissent. La peinture, Gainsborough, Reynolds. L'architecture avec Christopher Wren, qui reconstruit la cathédrale Saint-Paul et dessine les plans de 52 églises.
Alors après l'ère georgienne, vient l'ère victorienne avec le couronnement de la reine Victoria en 1838.
De 1838 à 1901, 63 ans de règne, maintenant dépassé par Élisabeth II. L'ère victorienne, c'est l'âge d'or de Londres, qui devient un centre économique et politique mondial. La révolution industrielle est en marche, on construit chemin de fer et métro, le tube, et la pensée aussi est révolutionnée avec la publication de l'origine des espèces par Darwin en 1859. Londres est la capitale de l'empire le plus vaste et le plus riche du monde. En même temps, comme le décrit Charles Dickens dans ses romans, Oliver Twist par exemple, l'opulence y côtoie la misère la plus noire. Mais à ce moment-là, fin 19e, Londres pouvait se considérer comme la capitale du monde.
Quelle histoire tumultueuse, riche et sanglante par moments. Alors reprenons notre souffle avec une petite pause musicale. Écoutons Handel de Hornpipe tiré de Water Music. Thank you. Alors, nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel et vous écoutez Capital. Au XXe siècle, Londres va connaître des heures terribles puisque nous visitons Londres aujourd'hui.
Oui, pendant près d'un an, en 1940 et 1941, Londres est dévastée par la Blitzkrieg, la guerre éclair. Des bombardements extrêmement violents se succèdent chaque nuit, mais Londres résiste. La famille royale refuse de quitter Londres et la population fait preuve d'un courage et d'un sang-froid exemplaires, soutenus par un premier ministre extraordinaire, Winston Churchill.
Alors après la guerre, pour compenser les énormes pertes dues au bombardement, on fait appel à des émigrés du Commonwealth.
Surtout de l'Inde et du Pakistan, qui donnent aujourd'hui à Londres d'ailleurs sa physionomie cosmopolite. Mais le début des années 50 voit aussi apparaître des épisodes de pollution intense. C'est ce qu'on appelle le smog, contraction de smoke, fumée, et fog, brouillard. Smog. Et dès 1954, la loi sur l'air pur, le Clean Air Act, va rendre à Londres une atmosphère respirable. Une loi à l'avant-garde pour l'époque et prémonitoire.
N'est-ce pas? Exactement. Quelquefois, ça nous faudrait aussi. Comment est la ville aujourd'hui?
Le Grand Londres, aujourd'hui, s'étend sur 970 km². La ville est coupée en deux par la Tamise, the Thames. En gros, les quartiers pauvres au sud et à l'est, les riches au nord et à l'ouest. Londres ressemble plutôt d'ailleurs à un patchwork de villages. Londres est aussi entourée d'immenses espaces verts comme Richmond Park et Hampstead Heath, mais il y a aussi de grands parcs au centre.
Comme Regent's Park, Hyde Park, Kensington Garden.
Et ce sont pour la plupart des anciens domaines de chasse royaux transformés en parcs. Londres compte beaucoup plus de parcs qu'aucune autre ville au monde de cette taille, beaucoup plus que Paris.
Si... On peut encore citer peut-être Holland Park, Green Park.
Qui était voué au duel au XVIIIe siècle.
Alors on peut y visiter de nombreux...
Et aussi St. James Park aussi.
Oui, alors on peut peut-être visiter les monuments de Londres.
Alors après une première impression en parcourant la ville à bord d'un double-deck bus, les pittoresques bus rouges à deux étages, commençons par le palais de Buckingham.
Alors le drapeau indique si la reine est là ou non.
C'est ça. Le palais est construit en 1705 par le duc de Buckingham et c'est une résidence royale depuis 1837. Il y a 600 pièces, dont 19 seulement ouvertes au public. Les écuries royales valent le coup d'œil. Elles abritent une extravagante collection de carrosses et de voitures. Et bien sûr, il ne faut pas manquer la relève de la garde. Derrière les grilles du palais, ils sont en uniforme rouge avec leur haut bonnet de poils noirs.
Alors après, dirigeons-nous vers le quartier de Westminster.
Et admirons sur la Tamise la large perspective du palais de Westminster, de style néo-gothique et construit à partir de 1840, où siègent la Chambre des Lords et la Chambre des Communes. Et on peut aussi admirer le célèbre Big Ben, le grand clocher, qui doit son nom à Benjamin Hill. Benjamin Hill supervisa l'achèvement des travaux du palais en 1858.
Ah, d'où le Ben, d'accord.
Voilà, Ben, alors, grand Ben.
Le Bourbon.
Et le bourdon de Big Ben pèse 14 tonnes seulement.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Et sonne les heures depuis 1859.
Alors, parle-nous aussi de l'abbaye de Westminster.
Elle surplombe Parliament Square et c'est la plus grande et la plus belle des églises gothiques, à part Chartres. L'abbaye de Westminster a vu le couronnement de 38 monarques depuis Guillaume le Conquérant en 1066. La première abbaye, nous l'avons vu, est fondée par Édouard le Confesseur en 1065. Et les travaux furent longs et vont s'échelonner jusque très tard, jusqu'au XVIIIe siècle. La nef gothique, quant à elle, terminée en 1388, est tout simplement grandiose.
Alors, c'est un des sites les plus sacrés et les plus symboliques de la royauté.
Oui, mais ce n'est pas une cathédrale. C'est une église collégiale royale gérée par la couronne. À l'intérieur, on trouve de nombreuses chapelles, tombes royales, monuments funéraires dédiés aux grands noms d'un passé lointain, avec des chefs-d'œuvre de l'art médiéval. On y trouve les tombeaux royaux d'Édouard le Confesseur, de Jacques Ier, du duc de Buckingham.
Et le monument d'Élisabeth Ier à la beauté hautaine fait face à la pâle et malheureuse Marie Stuart.
L'infortunée Marie Stuart. C'est mal terminé. Dans le coin des poètes, Poets Corner, on trouve des monuments à la mémoire de Shakespeare, Lewis Carroll, Henry James, Byron, Charles Dickens, Walter Scott et bien d'autres.
Donc tous ces grands écrivains.
Oui. Et il y a aussi d'étonnantes peintures murales du XIVe siècle. Et vers l'ouest, sous de sobres dalles funéraires, reposent les premiers ministres, dont Churchill.
Et à propos de Churchill, il ne faut pas manquer, en face du parc St. James, visiter le cabinet War Rooms.
Une visite vraiment inoubliable. Un escalier nous conduit aux salles souterraines d'où Churchill mena la guerre contre les Allemands. C'est là qu'avec ses chefs d'état-major, il élabora une stratégie pour vaincre Hitler. Tout a été préservé. Les cartes d'époque sont encore au mur. Et c'est une véritable petite cité souterraine construite en août 1939 sous les rues de Londres pour être à l'abri des bombardements. On y trouve le bureau de Churchill, ses deux téléphones, la lampe à abat-jour vert, la Telegraph Room et sa ligne directe avec Roosevelt. Et c'est de là aussi que furent diffusés les fameux discours exaltants de Churchill.
Nous lutterons jusqu'à sur les pages.
Sur les plages.
Les plages, pardon.
Je n'ai rien d'autre à vous offrir que du sang, du labeur et des larmes. Il y a même son cendrier avec un de ses éternels cigares.
Un autre monument immanquable est la cathédrale Saint-Paul.
Pendant la guerre, deux monuments seulement furent épargnés par les bombes, la tour de Londres et la cathédrale Saint-Paul.
Et l'ancienne cathédrale avait brûlé, puisqu'on en a parlé, lors du fameux incendie de 1666.
Et en effet, elle fut reconstruite par Christopher Wren, fin XVIIe siècle, dans un style baroque. C'est la cinquième cathédrale Saint-Paul depuis 1400 ans. Comme à Chartres, c'est la cinquième cathédrale de Chartres.
Absolument.
La cathédrale abrite le plus gros bourdon d'Angleterre, surnommé le Great Pole. Big Ben, Great Pole. Le dôme immense culmine à 111 mètres et le chœur est éblouissant de mosaïques. Il faut absolument monter dans la galerie des murmures et admirer ces peintures murales. Et même de là, en tout, il y a 530 marches, grimper jusqu'à la petite galerie dorée à plus de 100 mètres de hauteur. De là, on découvre tout Londres et la Tamise.
Alors, il y a également de superbes clôtures du chœur en fer forgé.
Et c'est l'œuvre d'un réfugié huguenot français, Jean Tijou. Dans la crypte, on peut aussi voir le tombeau géant de Wellington, entouré de lions, et ceux de l'infirmière Florence Nightingale et de l'amiral Nelson.
Vainqueur de Trafalgar. Alors, rendons-nous ensuite à la Tour de Londres, de sinistre mémoire.
Oui, tout à fait. Ouh, cet endroit a longtemps redouté, en effet, une histoire lugubre. C'est le symbole d'une justice arbitraire, des tortures, des exécutions. Et peut-être pour cela, c'est un des lieux les plus visités de Londres.
Nous y sommes accueillis par des Beefeaters. Ce sont des hallebardiers en costume d'époque Tudor, de couleur rouge et noire, avec une fraise et des gants blancs. Et les cornets légendaires.
Commencée par Guillaume le Conquérant, la Tour de Londres est en fait une forteresse qui comporte 19 tours. La plus haute, la Tour Blanche, s'élève à 27 mètres. On peut y voir la Porte des Traîtres. Aussi, on peut voir la Tour Sanglante dans laquelle le duc de Gloucester fit assassiner en 1483 le jeune prince héritier et son petit frère, puis se fit sacrer roi sous le nom de Richard III. C'est ce que nous raconte
la
tragédie de Shakespeare.
Alors, c'est ici que furent décapitées aussi deux femmes d'Henri III, Henri VIII, pardon, Anne Boleyn et Catherine Howard.
Oui, c'est vrai, mais c'est ici aussi, à la Tour de Londres, que l'on peut voir exposer les joyaux de la couronne.
C'est quand même plus gai, hein.
C'est quand même beaucoup plus magnifique. Et ça attire aussi les gens énormément. Entre autres, on peut voir le célèbre diamant Koh-i-Noor, c'est-à-dire montagne de lumière en persan, ce diamant que porta la reine Élisabeth II le jour de son couronnement en 1953. Et on peut aussi y trouver la couronne impériale de la reine Victoria.
Alors, si nous allions nous désaltérer avant de continuer notre balade à Londres, aller dans un pub, par exemple.
Ah oui, oui. Londres est la capitale des pubs et de la bière. Allons goûter une bière brune, dite ale, un peu amère, au milieu des visages rubicons des piliers de bar.
Et pour nous accompagner, écoutons un air traditionnel joué par les fifres et des tambours, tiré de la bande-son du magnifique film Barry Lyndon. Cette pause, si nous prenions le chemin des musées.
En commençant, à tout seigneur, tout honneur, par le British Museum, qui est de plus par tradition gratuit. Fondé en 1753, c'est l'un des plus grands musées du monde et on y trouve environ 6 millions de pièces intéressantes venues du monde entier. Des antiquités grecques, dont la frise du Parthénon, que l'on a depuis 1801.
Qui est vraiment réclamée par les Grecs.
Oui, à corps et à cri, mais ça marche
raison.
Pas. Des bas-reliefs assyriens, des chefs-d'œuvre d'Asie, du Mexique, des momies, des sarcophages, la pierre de Rosette, le mausolée d'Assouan, le précieux vase romain de Portland, qui a été soigneusement recollé après qu'un visiteur ivre l'eût brisé en plus de 200 morceaux.
Je crois qu'il a dû passer par un pub avant.
Et il faut aussi visiter la British Library, qui présente des trésors, livres, manuscrits, comme par exemple les évangiles de Lindisfarne de la fin du 7e siècle et leurs délicates enluminures, ainsi que la Magna Carta dont nous avons parlé, la Grande Charte.
Alors il y a aussi la National Gallery ou National Gallery sur le Trafalgar Square.
Au centre de Trafalgar Square se dresse la colonne Nelson, haute de 50 mètres, qui commémore la victoire de l'amiral Nelson face à Napoléon devant le cap Trafalgar en Espagne en 1805.
Alors, le National Gallery est le plus beau musée de peinture de Londres, il me semble.
Il est extrêmement riche, 6 siècles de peinture européenne. Comme ça, je vous donne des noms. Botticelli, Jérôme Bosch, Piero della Francesca, Le Greco, Michel-Ange, Titien, Véronèse, Vermeer, Franz Hals, Rembrandt, Rubens, Velázquez.
Mais aussi Canaletto, Goya, Degas, Manet, Pissarro, Manet, Seurat, Cézanne, Van Gogh,
etc.
etc. Et la Tate Gallery, elle expose le meilleur de la peinture britannique des Tudors au XXe siècle. Jusqu'à Turner, Constable, etc.
Voilà. Et si on aime les arts décoratifs, alors là, rendez-vous au Victoria and Albert Museum, la plus vaste collection d'arts décoratifs au monde. 11 km de galeries, miniatures, faïences, tapisseries, coffres célèbres, lits, vaisselle d'argent. Et dans le trésor médiéval, on trouve le cercueil de Thomas Becket, qui date d'environ 1180 et qui est orné de cuivre et d'émail.
Alors, il y a aussi d'autres musées plus petits, mais originaux. Hein.
Oui, par exemple, le Madame Tussaud, le musée Grévin de Londres, qui séduira sans doute surtout les plus jeunes. Il y a aussi le musée Charles Dickens, dans la jolie maison où il vécut, fidèlement reconstituée. Le musée Sherlock Holmes, dédié au célèbre héros londonien de Sir Conan Doyle. Mais aussi, dans un autre registre, le palais de Kensington, résidence des souverains avant 1760.
Et sa magnifique collection de portraits et de meubles. Et celle-là que, le 20 juin 1837, la princesse Victoria, âgée de 18 ans, fut réveillée au petit matin et on lui annonçait qu'elle est devenue reine d'Angleterre.
Et c'était aussi la résidence de Charles et Diana. Depuis la mort de Diana, c'est un lieu de recueillement dont les grilles sont souvent ornées de fleurs. Et enfin, il faut se rendre au charmant Jeffreys Museum, qui se trouve dans un hospice du XVIIIe siècle recouvert de lierre. Il présente le décor intérieur des maisons anglaises de l'époque élisabéthaine à nos jours.
Alors, tant de choses à voir, n'est-ce pas, mais aussi des quartiers très variés.
Soho, avec sa myriade de communautés telles Chinatown et ses lanternes rouges, Westminster, l'élégante Chelsea, la City affairée, l'effervescence de Piccadilly qui brille le soir de mille feux, le marché aux puces de Portobello, le charme de Covent Garden, le populaire Camden Town et ses stands d'artisanat.
Alors on peut tout trouver à Londres, même le plus grand carnaval d'Europe.
Le carnaval de Notting Hill qui est rythmé par les musiques et les danses des Caraïbes.
Et Londres est aussi la capitale du shopping.
En particulier à Oxford Street et Regent Street. Des magasins comme Harrods, Selfridge, Liberty, Fortum et Mason sont de véritables institutions. En fait, des cavernes d'Ali Baba, des attractions touristiques à eux tout seuls.
Et puis les parcs sont tellement beaux.
On a l'embarras du choix. Avant tout, le magnifique Hyde Park, avec le lac Serpentine et le Rose Garden, magique de couleurs et de parfums. Une tradition veut qu'ici, près de Marble Arch, le dimanche, chacun peut venir haranguer la foule sur un sujet qui lui tient à cœur, juché sur une caisse de bois. Le public se résume le plus souvent à quelques touristes hilares.
Alors, ou les jardins botaniques royaux de Kew Garden.
C'est un parc magnifique aussi, 120 hectares et la plus riche collection botanique du monde et qu'on peut explorer en petit train.
Et pour finir, le charme des rives de la Tamise.
Surtout du côté de Richmond Bridge, le plus ancien pont de Londres, 1777. Mais il faut voir aussi Tower Bridge et ses tours gothiques et son grand pont levant avec système à bascule qui laisse passer les gros bateaux croisant sur la Tamise. Et que de lieux oubliés ou modestes qui reviennent à la mode, comme l'East End, les Docklands ou Canary Wharf et ses gratte-ciels futuristes.
Alors si nous allions faire un tour sur la grande roue de London Eye, qui se dresse au bord de la Tamise depuis l'an 2000.
Le London Eye, l'œil de Londres en fait.
Exactement.
Oui, dans une des 32 nacelles. Et la rotation lente de cette roue, qui dure 30 minutes, nous offre tout le temps de contempler Londres. La vue s'étend même jusqu'à 40 km par temps dégagé. Elisabeth, j'aperçois Windsor à l'ouest et à l'est, la mer.
C'est la mer, formidable.
En redescendant, nous irons savourer a cup of tea. Ou encore mieux, a high tea. Un high tea avec sandwich au concombre et scone à la crème. Un must ici.
C'est formidable tout ça. Ça donne envie de manger. Merci Christine de nous avoir fait découvrir Londres. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission Capitale sur Radio Grand Ciel, bien entendu.
Merci Elisabeth.
Et on écoute pour vous dire au revoir les Kinks de Sunny Afternoon.
Sunny Afternoon.
Taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly. Live